les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Héloïse Rouard, Alexandre Marlier.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Beverly Hills, en ce temps-là, on en faisait tout un plat. Merci Nat de m'avoir fait chanter ça. Souvenez-vous, nous étions en 1990, c'est le créateur d'Aaron Starr et le producteur Aaron Spelling étaient les rois du monde. Non, je ne le chanterai pas celui-là. Beverly Hills cartonnait à la télé américaine et c'est tout naturellement que tous les yeux se sont rivés vers leur nouvelle production commune 2 ans plus tard, Melrose Place. D'autant que la série se voulait être un prolongement plus mature des aventures de Brandon et Brenda, puisqu'elle mettait en scène des trentenaires dans un quartier branché de Los Angeles. La série fera les beaux jours de la Fox de 1992 à 1999, soit 7 saisons de 226 épisodes remplis à craquer de rebondissements, de vengeance, de coups tordus, de personnages hauts en couleur et complètement dingues. Meurtre, résurrection, viol, kidnapping. Melrose Place fut le premier soap opéra totalement décomplexé. La série fut également un gros succès d'audience en France sur TF1. Au niveau du casting, Melrose Place fait figure de maître étalon en matière de que sont-ils devenus ensuite. Ivor Locklear, Spin City, Courtney Thorne-Smith, Ally McBeal, Jamie Lunner, Profiler, Alyssa Milano, Charmed, Doug Savant ou encore Marcia Cross de Desperate Housewives. Véritable objet de culte, la série fera d'ailleurs l'objet d'un remake calamiteux en 2009. Nathanaël Picasse souhaitait revenir sur le phénomène 20 ans plus tard. Bonjour Nat.
Bonjour Alex.
Alors Melrose Place, série culte, et pourtant le démarrage de la série fut particulièrement poussif.
Mais oui, c'est ça, parce que il faut bien se dire qu'on s'attendait à un succès garanti. On s'attendait, vu en tout cas la paternité de la série d'Aaron Starr, Aaron Spelling, que ça allait exploser. Et puis finalement, quand on regarde les audiences de la saison 1, qui ne sont pas calamiteuses non plus, on est quand même dans les 10 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui n'est pas mauvais, surtout si on regarde actuellement les résultats des autres séries. Mais on était quand même très très loin des scores espérés, surtout comparé à Beverly Hills, justement. Et pourtant, donc, la série se veut être directement liée à Beverly Hills, puisque le lien, d'ailleurs, entre les deux séries sera fait par Jack Hanson, le beau gosse légèrement bad boy, je dis vraiment légèrement avec des guillemets.
C'est parce qu'il avait une moto.
Il avait une moto, voilà, et c'était un peu le tombeur de ces dames.
La moto et le perfecto. Hein.
Ouais, c'est vrai, il avait deux des ingrédients qui font de lui un bad boy.
Oui, alors qu'en soi, il est quand même assez fadasse, hein. Il faut dire ce qui est. Joué par l'ineffable Grant Shaw, ce personnage fera ses premiers pas dans Beverly Hills, où il fera la connaissance de Kelly, et c'est d'ailleurs elle qui viendra avec lui le temps de 3 premiers épisodes de Melrose Place. Quelque part, c'est amener le public jusqu'à Melrose Place, le prendre par la main et leur dire, ben voilà, maintenant il y a une autre série qui est un peu notre prolongement. C'est vraiment peine perdue, cette façon de faire, puisque ben, la série ne séduira vraiment pas lors de sa toute première saison. La faute en incombe à un ton un peu sérieux et décousu. Et il faut dire que Darren Star voulait avant tout créer une pure fiction sérielle, c'est-à-dire des épisodes qui ne sont pas liés entre eux, avec des histoires qui sont structurées autour d'un seul épisode, et donc finalement il y avait très peu de suites quelque part, il n'y avait pas d'éléments feuilletonisants.
Qu'est-ce qu'on peut se dire qu'il y avait quelque part quelques erreurs de casting, puisque entre la saison 1 et la saison 2, il y a quand même une fameuse page de tournée.
Ben, ils ont éliminé tous les personnages vraiment fades, et puis ils en ont ramené d'autres beaucoup plus forts en gueule. Commençons par le commencement, qu'est-ce que Melrose Place finalement? C'est un complexe, un lieu dit à Los Angeles, un complexe de 8 appartements avec une piscine centrale. C'est une habitation qui est idéale pour les trentenaires branchés et huppés et qui se situe sur la fameuse avenue de Melrose. C'est un complexe qui est d'abord géré par le gentil docteur Michael Mancini. Alors gentil, je mets ça aussi entre guillemets parce que c'est comme ça qu'il était présenté dans la saison 1 en tout cas, le brave gars avec sa femme Jane, le couple parfait, en tout cas c'était l'apparence qu'il donnait, mais c'est un couple qui va rapidement connaître des moments beaucoup plus difficiles. Il y avait d'autres habitants. Alors, je vais passer sur ceux qui ont disparu assez vite après la saison 1 parce qu'ils n'étaient vraiment pas indispensables à la série.
Il y avait quand même Vanessa Williams au départ.
Oui, tout à fait, mais qui...
Qui a vite jarté.
C'est ça, exactement. Je vais plutôt m'attarder donc sur ceux qui ont marqué l'histoire de la série, à commencer par Alison Parker, jouée par Courtney Thorne-Smith, qu'on a vu après effectivement dans les McBeal. Ça commence comme ça pour elle. Elle perd sa colocataire du jour au lendemain et décide de partager son appartement avec Billy Campbell, le tombeur de ces dames, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté dans la série. Quand on le voit maintenant avec 20 ans de recul, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui trouver ? Parce que dans le genre très fade et très moche quand même, on pourrait
délicieuse
pas faire mieux.
Années 90.
C'est ça. Alors surtout que là ici on est dans le bon gros cliché puisque l'attirance est immédiate entre les deux trentenaires qui décident d'ailleurs de jouer la carte de l'amitié au départ mais finiront par s'avouer leurs sentiments et il y aura une relation éphémère entre eux mais qui les liera quand même à tout jamais. Il y aura toujours le fameux couple Allison et Billy même s'ils vont souvent se séparer et au moment à chaque fois qu'ils vont tenter de se rapprocher il y aura toujours un élément évidemment qui va les séparer. Un autre personnage récurrent, c'est Matt Fielding, qui est un infirmier qui travaille dans le même hôpital que Michael et qui est interprété par Doug Savant. Et c'est Doug Savant, un acteur qu'on retrouvera dans Desperate Housewives. C'est un personnage intéressant dans la mesure où il va révéler son homosexualité assez rapidement, ce qui était un fait assez rare à l'époque. Hein. Il faut quand même se remettre 20 ans en arrière. Maintenant, on a pratiquement toujours un personnage homosexuel dans les séries. C'est le passage obligé, mais là, c'était assez rare à l'époque. Donc, ça avait quelque chose de neuf, même si, il faut quand même dire, c'est assez soft, hein. On le verra. Déjà, il a des relations sentimentales assez difficiles et c'est une homosexualité très pudique. Hein. Au moment où il s'apprête à embrasser quelqu'un, la porte se ferme, il y a quelque chose qui se passe. Et
c'est à la limite de dynastie, quoi. Hein. Oui. On est 20 ans en arrière, quand même. Hein.
C'est ça, donc c'est très pudique. On est quand même dans une galerie de personnages assez prévisible, assez stéréotypé, en tout cas dans la saison 1. Pas vraiment de quoi créer une critique de la société américaine comme l'aurait voulu Darren Star. C'était ça quand même qu'il voulait faire. C'est vrai que quand on regarde la saison 1, on se dit « c'est loupé mon petit coco ». Et c'est vraiment qu'à partir du 21e épisode de la série que Melrose Place trouvera un nouveau souffle et surtout sa voix en la personne du personnage de Amanda Woodward, interprété par Heather Locklear. The Beach, on peut dire ça comme ça. Hein. Il y en a eu d'autres dans l'histoire des séries, mais là c'est vraiment le prototype de la Beach. Prototype de la femme moderne, ambitieuse, à la tête d'une grande société, dans laquelle travaille d'ailleurs Allison en tant que standardiste, en tout cas au début. Elle deviendra la gestionnaire de Melrose Place à partir de la fin de la première saison. Donc elle reprend ça des mains de Michael et Jane et fera vivre vraiment un calvaire à ses habitants et avec tous les gens qu'elle va rencontrer. Et c'est vraiment un des personnages clés de la série, un personnage très jouissif évidemment. Et elle fera d'ailleurs tomber plus d'un homme dans ses filets, à commencer par Billy qu'elle va convoiter. Donc elle va réussir à séparer le couple Billy et Allison. Elle ne sera d'ailleurs aucune aide pour Allison quand cette dernière va sombrer dans l'alcoolisme. Ça, c'est aussi un des grands moments de la série, c'est l'alcoolisme d'Allison qui va traîner quand même extrêmement longtemps. Et c'est une véritable mente religieuse, hein, Amanda, puisqu'elle va faire tomber successivement dans ses filets Billy, Jack, Peter, le collègue de Michael, et enfin Kyle, avec qui elle va finalement se poser. Et c'est vraiment lorsque ce personnage arrive que la série prend un véritable tournant et assume enfin ce qu'elle est, c'est-à-dire un soap opéra totalement décomplexé.
C'est quand même pas la seule bitch de cette série.
Ah non, il y en a d'autres et ça je vais bien sûr y revenir plus tard.
Tout le monde se demande si tu vas rentrer à Chicago.
Non, j'ai un travail et tous mes amis sont ici.
Mais tu voulais partir à cause de Michael ?
Oui, au début c'était dur, mais maintenant c'est différent. J'ai envie de vivre ma vie.
Et peut-être que dans le fond tu espères qu'un jour ou l'autre vous revivrez ensemble, Michael et toi, non ?
Oh non, pas du tout.
Vous devriez vous réconcilier, vous formez un si beau couple tous les deux.
On n'avait pas grand-chose en commun.
Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Tu ne trouveras jamais un homme aussi super que Michael. C'est un chirurgien et en plus il a une sacrée personnalité. Tu ne trouves pas ?
Donc t'es de quel côté ? Du sien ou du mien ?
Quelle question ? C'est évident que je suis de ton côté. Je vais t'avouer quelque chose, mais promets-moi de ne pas te mettre en colère.
Dis toujours, on verra.
Il m'a invité à déjeuner.
Quoi ? Et comment c'est arrivé ?
On a sonné, j'ai décroché et on s'est parlé au téléphone.
T'aurais pas dû lui répondre. Je vais changer de numéro de téléphone.
Écoute, je suis désolée, il a insisté et je lui ai dit oui. Mais tu peux pas savoir, il a pas arrêté de me parler de toi. Il pense que c'est sur un coup de tête que tu l'as mis dehors et que t'as décidé de divorcer.
Non mais il plaisante. Sur un coup de tête ? Tout ce qu'il m'a fait subir, tu te rends pas compte ?
Écoute, t'as été un peu trop dure avec lui.
Non, j'ai eu raison. Je te rappelle que ton petit Michael a une liaison avec une autre fille.
Je suis sûre qu'il reviendrait si tu lui donnais une seconde chance. Il t'aime encore, Jane.
Ah oui, c'est lui qui t'a dit ça ?
Ben, c'est ce que j'ai ressenti. Écoute, je veux pas jouer les psychanalystes, mais j'ai l'impression que tu manques un petit peu de tolérance. Tu voudrais toujours que les gens que tu aimes n'aient rien à se reprocher et qu'ils soient sans défaut.
Ça, c'est pas vrai.
Tu es prête à détruire ton ménage qui marchait si bien simplement parce que l'un de vous a fait une erreur. Mais c'est vrai, je comprends pas comment tu peux décider de laisser tomber un homme aussi extraordinaire.
Sydney, écoute-moi bien. Si tu es ici, c'est pas pour me parler de Michael. Si jamais tu le revois, ne serait-ce qu'une fois, je te mets dans l'avion tout de suite. Et je suis sérieuse.
Je voulais t'aider. Excuse-moi.
M'aider ? Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Je me le demande.
dans ce florilège de personnages, il y avait aussi un personnage assez intéressant, c'était celui de Sydney.
Oui, qu'on vient d'entendre dans l'extrait, hein, c'est elle, avec cette voix très caractéristique dans la version française, enfantine comme ça, donc on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est l'autre personnage phare de la série, il y en a plusieurs évidemment, mais donc elle c'est la petite sœur de Jane, c'est la véritable manipulatrice, elle sera d'ailleurs en guerre ouverte contre l'autre personnage mythique de Melrose Place, c'est le docteur Kimberley Shaw, interprété par Marcia Cross.
J'adore.
Ça c'est le personnage jouissif.
La bitch ultime. Ça... Encore pire que Ivor Locklear, je trouve. Enfin, qu'Amanda Woodward.
Mais oui, c'est ça qui d'ailleurs m'étonne, parce que quand j'ai revu Melrose Place, j'avoue, je me suis pas retapé l'entièreté des 7 saisons. Mea culpa, fouettez-moi.
Attention, hein, c'est Kimberley qui va venir.
Ça va être rude. Mais non. Je trouve que finalement, Amanda, on l'a vendue comme la garce absolue, etc. Je trouve que Kimberley était nettement plus dérangée qu'elle.
Disons qu'Amanda avait son éthique, en fait. Elle avait des choix, elle assumait ses choix et c'était relativement clair, en fait.
Elle avait ce côté femme forte, indépendante, un peu rude, mais sinon pas foncièrement... J'ai pas l'impression foncièrement méchante.
Mais elle a une différence, c'est qu'entre Amanda et Kimberley, c'est qu'Amanda est saine d'esprit, alors que Kimberley, on sait assez rapidement qu'elle a pas toute sa tête, elle a pas toutes les cases dans le bon ordre.
Ah, ça c'est sûr. Là, c'est la véritable psychopathe, la folle furieuse qui va pas hésiter à utiliser tous les moyens pour écarter les personnes se trouvant sur son chemin. D'ailleurs, les saisons 2 à 4 tournent principalement autour des relations tumultueuses entre Michael, donc qui abandonne son rôle de gentil docteur pour devenir à son tour un véritable salaud, Sydney et Kimberley. Ça, c'est vraiment, je trouve, le trio de tête de la série qui est vraiment très marquant dans ces 3 saisons.
Et la maison sur la plage.
Et la maison sur la plage, effectivement, la fameuse maison dans laquelle beaucoup de choses se passent. Oui. On fait fi, bien sûr, de toute vraisemblance ou de souci de cohérence, hein, évidemment. Les scénaristes partent totalement en live, ils se lâchent totalement. Et pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs, puisque le trio de choc se fera les pires coups de pute. Kimberley est laissée pour morte après un accident de voiture, mais sa mort n'était qu'un camouflage pour mieux tirer les ficelles dans l'ombre. Elle reviendra en pleine forme pour voler le bébé de Joe, l'ami de Jane, on s'en souvient.
Oui, j'avais complètement oublié Joe, tiens.
Ah oui.
un peu transparente.
Oui, qui est très très transparente, d'ailleurs. Elle l'a un peu mérité, quand même. Kimberley volera la voiture de Jane pour renverser Michael. Elle se découvre un cancer ensuite qu'elle cache avec une perruque, Max qui lui arrache la perruque lors d'un fameux épisode phare de la série, et en retour Kimberley engagera 2 hommes pour l'agresser. Bref, que du bonheur, que de l'amour entre ces personnages finalement, c'est assez fort. Cette animosité entre Kimberley, Sydney, Michael va trouver son paroxysme à la fin de la saison 3, où carrément Kimberley fera exploser le complexe Melrose Place, qui laisse Allison aveugle. Bon, temporairement, on est dans une série, évidemment, on retrouve toujours la vue au bout d'un moment.
Hein. Oui, et puis le décor est quasiment reconstruit à l'identique, donc je vois pas vraiment l'intérêt.
Alors, je voulais revenir quand même sur la place ou l'image des femmes dans cette série, parce que ce sont clairement elles qui mènent la danse dans Melrose Place, à l'exception d'Allison, d'ailleurs, qui est assez falote, un peu inintéressante, à part son alcoolisme, bon, ma foi, elle est un peu... C'est un peu la victime désignée, quand
même. Et Joe.
Et Joe aussi. Et Jane aussi, que pas fantastique. Enfin, voilà, à part ces trois-là, on a vraiment 4 personnages féminins très forts. On a pratiquement l'impression que c'est Darren Star qui avait déjà en idée son futur Sex and the City avec Kimberley, Amanda, Sydney et Brooke. Ah oui, j'allais oublier de vous parler de Brooke, jouée d'ailleurs par Christine Davis. Tiens, Sex and the City, puisque celle-ci est la riche héritière d'un homme d'affaires, une vraie peste pourrie gâtée.
Et qui avait déjà sa voix française super agaçante.
C'est ça. Et qui désire Billy par-dessus tout. Elle va écarter Allison de son chemin. Elle épousera Billy, mais elle connaîtra une fin funeste dans un accident. Elle
reviendra même en fantôme. Oui. Hanté Billy.
C'est
toi qui disais que la série faisait fi de toute vraisemblance.
Ça, c'est sûr. Là, je pense que là... Mais donc, voilà, on a droit à des femmes, des personnages très forts, des vraies garces qui sont prêtes à tout, à coucher, à tuer, à manipuler, à voler pour arriver à leur fin. Leur image n'en ressort pas franchement grandi.
Et la police dans tout ça?
Et la police dans tout ça, effectivement, pas grand-chose, parce que la police... Oui, elle apparaît de temps en temps, mais c'est vrai que quand on voit tous ces larcins, ces divers atteintes à la justice, on se dit, mais où est-ce qu'ils sont? Et finalement, il faut croire que dans ce coin, dans ce complexe-là, c'est un peu comme dans Desperate Housewives, hein, soit dit en passant, elle arrive à un certain moment, mais en général, ils arrivent après l'incendie. Hein.
Le truc qui est assez marquant quand tu résumes cette saison, et quand on y réfléchit finalement, c'est de se dire, mais qu'est-ce que Grande Chaux faisait là-dedans? Ces personnages ne servent à rien finalement, parce que je n'ai aucun souvenir de leurs histoires.
Non, et c'est vrai que quand on regarde, 20 ans après, leur storyline était assez pauvre, en fait. Ils sont là, ils ont...
Donc Savant, c'est pareil. Je me souviens qu'il y avait le personnage homo, oui. Mais je me souviens d'aucune histoire de le concernant.
Mais non, mais ce qui nous a marqué, effectivement, c'est les grands rebondissements de la série. C'est les personnages totalement fantasques et ces véritables coups de pute. Sinon, c'est vrai qu'à côté, ceux qui ne faisaient pas partie de cet élément presque fantastique de la série, je dirais... Finalement, on s'en souvient très peu. En fait, c'est ce qui avait été amené par Beverly Hills et puis qu'on a laissé un petit peu de côté et qu'on a gardé quand même l'air de dire « Bon, mais il y a quand même une filiation par rapport à Beverly Hills, mais finalement, on est passé à un autre niveau. »
Je suppose aussi que bon, si on parlait pas encore de crise à l'époque, il fallait quand même aussi payer le loyer de tous ces petits complexes. Donc, tant qu'à faire, il fallait peut-être remplir les différents appartements comme on pouvait. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt... des personnages,
ils sont en fond.
Voilà, et qui gravitent, mais qui sont là, on sait qu'ils sont là, et sans plus, quoi.
Et qui ont très peu d'intérêt. De temps en temps, les scénaristes essayent de relancer un peu leur l'intérêt en essayant de créer des histoires un petit peu plus sombres par rapport à leur passé. La mayonnaise ne prend jamais franchement, en fait. Et puis, vous voyez, ils sont fat par rapport au reste des femmes, en tout cas, ça c'est certain.
Des fois.
Quoi?
Elle a mis des bombes dans tout l'immeuble. Il faut les désamorcer. Il nous faut de l'aide.
Il faut se tirer d'ici en vitesse, oui. Hé, sortez tous de là. Il y a une bombe.
Pas
sortez.
Sortez par là. Jen.
Billy, il y a une bombe dans l'immeuble. Dépêche-toi de sortir.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Faut vider les lieux. Kimberly est complètement folle. Elle va faire sauter tout l'immeuble. Dépêchez-vous.
Oh, ça ne fait pas rire, arrête.
Puisque je te dis que ça va sauter d'une minute à l'autre.
Allison!
Laissez-moi!
Allison, ça va sauter, il faut sortir! Pat!
Qu'est-ce qu'il y a?
Dépêche-toi de sortir! Sors de là, il y a une bombe, ça va exploser! Dépêchez-vous de sortir!
Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça?
Il faut évacuer les lieux, vite!
Mais enfin!
Écoutez, c'est vraiment pas le moment, il faut évacuer les lieux!
Laisse-moi! Mackenzie,
je peux pas rester ici! Qu'est-ce que vous faites? C'est pas ce que vous croyez.
Kimberly? Kimberly?
C'est pire.
Non!
Je voulais revenir sur la fin de la saison 4, tension à son paroxysme, toujours avec Kimberly, le trio Mancini, etc. La saison 5 reviendra avec des bases plus calmes. Il faut dire que c'était impossible d'aller plus loin dans la démesure, parce que là, on flirtait carrément avec la parodie. Alors bon, bien sûr, on regardait ça au second degré, hein, mais le respect, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup de moments où on passe une étape et après, ça devient une comédie, finalement. Limite à la Desperate Housewives plus tard, mais c'était plus tenable. Et donc, c'est une saison 5 qui va faire apparaître de nouveaux personnages avec Taylor, Peter, Kyle, bien sûr Amanda reste toujours dedans, mais qui veut aussi signer le départ des stars de la série, Kimberly, Sydney, Jack, Allison, disparaissent. Et il faut bien dire, l'intérêt de la série va alors rapidement décroissant à partir de la saison 5, 6, 7. Clairement, Melrose Place ne s'en remettra jamais des départs. Et d'ailleurs, de nombreux fans reprochant à l'histoire de ne plus être aussi déjanté qu'avant. Melrose Place a perdu son mojo, quoi.
C'est pas Joe qui allait remplacer Kimberly, ça c'est sûr.
C'est certain. Que penser de la série finalement, 20 ans après? Après un départ assez poussif, Melrose Place s'est vraiment trouvé un ton à part, qu'on aime ou qu'on déteste. On ne peut pas être indifférent à Melrose Place. C'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, personnellement, c'est vraiment le prototype même de la série qu'on regarde avec un plaisir coupable. C'est mauvais, ça part dans tous les sens, ça n'a aucune cohérence, mais la mayonnaise prend. Et ça prend parce qu'il y a une galerie de personnages déjantés, tous plus mauvais, garces et salauds les uns que les autres, détestables tous, et pourtant... attachant, et ça c'est un petit miracle parce que c'est vrai qu'ils ont tenté après de faire une autre série dérivée de Melrose Place qui s'appellera Model Inks et qui n'a pas du tout pris parce que là les personnages étaient encore plus détestables et là le public n'a vraiment pas suivi, c'était absolument intenable. Et donc les excès de Melrose Place, c'est justement ce qui fait tout son sel. Maintenant le capital revisionnons, quand on a connu tous les rebondissements, c'est plus aussi jouissif, évidemment, hein, parce que on sait où ça va aller, on sait ce qui va arriver, et finalement, on trouve les dialogues assez indigents pour la plupart du temps. Ah, tu m'as quitté, ou tu m'as trompé avec un tel, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. C'est un peu mauvais, hein, l'air de rien. Donc, c'est à bon avoir une fois, il n'y a aucune replay value, je dirais.
Et puis ça s'inscrivait bien aussi dans l'époque, en fait, hein, dans l'air du temps, dans l'époque. Je trouve qu'ils étaient très raccord par rapport à ça, par rapport à ce qui était en train de changer, de ce que...
Amérique se tourne totalement décomplexé. Maintenant, on n'a plus des séries comme ça, totalement décomplexées. Soit ça se prend trop au sérieux, soit ça se prend pas assez au sérieux. Et là, ici, je sais pas, ils ont pris un pet, les scénaristes. Ils se sont dit, allez, on va s'éclater pendant quelques saisons. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Pour la petite histoire, en plus, c'est que Beverly a des fois repris après à des moments des éléments de Melrose Place avec des éléments un peu suspense, notamment avec la mort du père de Dylan qui est pas mort dans l'explosion de la voiture finalement et qui a maquillé sa mort. Ça fait très Melrose Place alors que ça avait pas sa place dans Beverly Hills, je trouve, à la base.
Un petit mot sur la version 2009.
Oh là là, non. Écoute, bah oui, effectivement, c'est vrai que bah, comme c'était une série en tout cas culte, ou en tout cas qui a été très populaire et qui a été très apprécié, c'était assez normal, que, vu le remake qui avait fait de Beverly Hills, que les regards se tournent vers est-ce qu'ils allaient faire la même chose pour Melrose Place. Ben, on a eu droit à Melrose Place 2.0 avec le retour de Amanda, qui a été un bide colossal.
Et de Mancini aussi, du docteur Mancini, oui, avec son fils.
Tout à fait. On sent bien que c'est effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une série qui était bien dans son époque et qui maintenant ne prend plus du tout. Franchement, ou alors il faudrait vraiment repartir sur de toutes nouvelles bases. Mais ici, ils essaient de replacer des personnages, notamment ils font appel au personnage de Sydney, qu'il tue directement après les 10 premières minutes puisqu'on la retrouve morte dans la piscine et qui réapparaît au cours de flashback dans cette série version 2009.
Un peu ce qu'ils avaient fait finalement avec le personnage de Christine Davis dans l'original.
Voilà. Et vraiment, absolument aucun intérêt. Non, vraiment, c'était pas terrible. Ce qu'on notera aussi dans Melrose Place, première version, pour ceux qui l'ont vu en français, c'est que le doublage français est vraiment catastrophique. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec les doublages, mais c'est à un tel point où les lèvres des acteurs ont cessé de bouger et on a toujours, ils parlent toujours. C'est vraiment affreux. Le décalage, des fois, est très très présent. Et donc, c'est vraiment pas regardable en français. Ce qu'on pourrait noter aussi, c'est un vivier quand même de stars, de futures stars quand même de la télé, hein, Melrose Place, avec tous ces acteurs après qui ont été recasés dans des séries qui ont quand même plus bien marché, des Sex and the City, des Desperate Housewives, des Ally McBeal.
Bizarrement, c'est pas ce qu'est devenu Billy Campbell.
Non.
Et on s'en fout.
C'est ça. Il y a aussi Grant Shaw, bien sûr, qui a joué dans Point Pleasant. On ne va pas dire non plus que ça a été un immense succès, mais je trouve que la plupart du temps, beaucoup des acteurs qui sont passés par là, il y a eu aussi Alyssa Milano d'ailleurs, hein, on l'oublie aussi un peu, qui après, bien sûr, était dans Charmed. Mais voilà, il y a eu pas mal quand même d'acteurs qui après se sont bien recyclé, plus
oui, ou
moins
David
bien recyclé.
Charvet dans la ferme célébrité.
Moi, j'aurais pas été jusque là.
Je ferai plus, pardon.
Je n'irai pas jusque là. Mais bon, voilà, on voit quand même que Melrose Place a quand même laissé son empreinte dans le monde de la télé et que ça reste quand même un bon moment, surtout pour les saisons 2 à 4. Si vous avez vraiment que quelques saisons à regarder de Melrose Place, regardez celle-là parce que vous allez vraiment prendre votre pied si vous ne l'avez jamais vue. Après, sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.